Vous savez, vous l'avez peut-être remarqué comme moi, mais dans notre petit groupe ici, il y a une jeune fille, Francisca. Elle arrive en général à l'avance, mais il y a une chose qu'elle fait chaque fois, c'est qu'elle réserve une place à côté d'elle pour sa cousine qui va venir. Sa cousine peut arriver à n'importe quelle heure. Elle trouve sa place. Mais vous savez, c'est ça la notion de « j'ai une place ». Delphine peut avoir ce sentiment « j'ai une place ». Quand j'arrive, j'ai ma place. Même si la salle est pleine, j'ai ma place. Ma cousine m'a réservé une place. Hein? Mais vous savez, ça, bon, on sourit à cela, hein? mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Hein? Et c'est ce que nous pouvons... Je vous invite déjà à lire avec moi dans Jean 14, Jean chapitre 14, les versets 2 à 3. Jean 14, versets 2 à 3. Déjà, au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il a dit non, non, restez calme. Bon, c'est, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir et que je vais partir, vous n'allez plus me voir et ça vous préoccupe et tout ça. Il a dit non, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, ça suffit. Faites-moi confiance, faites confiance à Dieu, faites-moi confiance. Soyez rassurés. Et eux, ils ne savaient pas tout ce que nous savons. Hein. Nous, on en sait, on sait que ça s'est bien passé, il est mort, mais il est ressuscité. Nous savons qu'il est monté dans la gloire, nous savons que le Saint-Esprit est redescendu, donc ça veut dire qu'il est bien arrivé. Il y a tout pour être rassuré. Mais il dit quand même que votre cœur ne se trouble point. Et donc au verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi réserver une place? Ben parce que je veux que tu sois avec moi. Hein, tout à l'heure, on parlait de Francisca. Pourquoi? Parce qu'elle veut que Delphine soit à côté d'elle. C'est pour ça qu'elle réserve la place. Ce n'était pas parce que la chaise... non, c'est pour la personne. Et Jésus-Christ est en train de dire, mais moi je m'en vais, je vais vous préparer une place. Parce que je veux que vous soyez près de moi. Je désire, et donc je garde cette place, je la prépare, s'il faut bousculer du monde, mais, et puis, dans le cas précis ici, hein, c'est que le petit frère, il vient, il veut s'asseoir à côté de sa soeur, il dit non, pousse-toi là-bas. La place est réservée. Mais c'est ce que Dieu, hein, et vous savez, je prends ce sujet, c'est pour illustrer, et on va un peu développer cette pensée, mais c'est pour nous rassurer en tant qu'enfants de Dieu. La mère de Jean et de Jacques, donc deux des disciples de Jésus, un jour était venue voir Jésus et dit « Jésus, j'aimerais demander une faveur. » Et comme Jésus avait toujours du respect pour les mamans, il dit « Parle toujours. » Elle a dit « Tu sais, Jésus, j'aimerais que tu réserves des places pour mes fils. » Elle parle comme une maman. Hein. Les mamans, elles n'ont pas changé. Hein. Elle dit, je veux que tu réserves une place pour mes fils. Je voudrais qu'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ton règne. C'est tout, rien que ça. Oui, oui. Jésus, il a été gentil. Il a dit, écoute, bon, c'est bien. Hein, ce n'est pas moi qui devais décider. Mais en fait, ce qu'elle demandait, elle demandait pour ses fils des places, que Jésus leur réserve des places. Mais c'était des places terrestres. C'est des places qui sont selon le système humain. C'est une place dans la vie, une bonne place dans la vie. Hein. Tu vas être roi et je voudrais qu'il soit à droite et à gauche. Jésus n'est pas dans un système où c'est le premier venu qui a la meilleure place. C'est Dieu, Jésus n'est pas comme ça, il n'y a pas de favori, il n'y a pas de préféré, il n'y a pas quelque chose. Il dit, je vais vous préparer une place, vous préparez une place. Une place pour vous tous, il n'y a pas de privilégié, il n'y a personne qui est avantagé. Et donc, Jésus, ici, dans la chambre haute, eh bien, s'adresse aux disciples qui sont là, hein, donc les 13 qui sont là, je veux dire les 11 qui sont là, encore. Et puis, il s'adresse aussi, hein, quand nous voyons que quand il parle de disciples, il ne parle pas seulement de ceux qui sont là maintenant, mais il parle de ceux qui vont suivre. Hein, parce qu'on le voit dans Jean chapitre 17, quand il prie pour les disciples, il dit « Je ne prie pas seulement pour... ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc quand Jésus il dit à ses disciples « Je vais vous préparer une place », il ne dit pas seulement aux 13, ou, je veux dire aux 11, mais il dit « À vous et à tous ceux qui croiront en votre parole, votre témoignage, eh bien je vais vous préparer une place. » C'est-à-dire la meilleure chose que Dieu a pour nous, c'est « Je te prie une place ». Vous savez, peut-être que certains parmi nous, on a du mal à trouver notre place dans le monde, dans notre société, au travail, dans notre famille. Et puis on sent que la place est tout le temps menacée, ou elle n'est pas stable. On est un peu comme les pilotes d'avion sur un siège éjectable. Et même les politiques, eux aussi, ils se trouvent sur des sièges éjectables. Tout d'un coup, on découvre qu'il a un compte quelque part, et tout d'un coup, sa vie change. Mais Jésus a quelque chose, mais il a dit, j'ai une place, et une place pour toi, garantie. Alors, je vais vous préparer une place. Première chose que je dois quand même dire, c'est que hors Jésus, hors Christ, en dehors de Christ, je n'ai pas de place. En dehors de Christ, je n'ai pas une place. Deuxièmement, en Christ, j'ai une place. Et pour Christ, est-ce que j'ai une place ? J'ai une place pour Christ, hein, si je suis enfant de Dieu. Donc, premièrement, hors Christ, je n'ai pas de place. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, j'espère que non, vous arrivez d'aller à une célébration, une réception, quelque chose, et puis vous découvrez qu'il n'y a pas une place pour vous. Je me souviens avec ma femme, tout au début, en arrivant en France, on ne connaissait pas les coutumes, et on avait notre voisin qui a fait... ils célébraient leur 50e anniversaire de mariage. Et ils avaient fait... Et nous, on ne savait pas qu'il y a une différence entre vin d'honneur et ensuite le repas. Et on a reçu une invitation, on croyait que c'était pour... Alors, on arrive pour le vin d'honneur, on est là, on est content avec tout le monde et tout ça. Et après, les gens vont s'asseoir. Et nous, bêtement, on va se présenter aussi. Et puis, je vois, il y a un tableau qui dit où sont les places. Et puis, je ne vois pas notre nom. Je dis, bon, ben, ça arrive, hein, les gens se trompent. Hein. Alors, je vais voir la dame qui... Et puis, elle regarde sa liste. Elle dit, non, je ne vois pas votre nom. Et puis, d'un coup, il y a quelque chose qui me dit, hé, c'est pas pour toi. Tu n'étais pas invité à ça, toi. Et alors, je vais voir ma femme. Et puis, on prend notre bébé. Je ne sais pas si on en avait un ou deux à l'époque. Et puis, on s'en va. Et puis, voilà, et pas de place pour nous, hein. Et bon, je me débrouille maintenant, hein, je sais, j'ai compris. Hein, c'est jamais agréable d'arriver tout d'un coup, il n'y a pas de place. Bon, ça arrive parfois, les gens, ils ont fait une affaire et puis finalement, ils se retrouvent avec un faux billet pour le stade et puis on lui refuse. Alors lui, il était tout content, il a dit à tout le monde qu'il va aller pour le match et puis finalement, il arrive là, on lui dit, monsieur, c'est pas bon ça. Et refoulé. Pas de place. Et puis alors, on est laissé tout seul à gérer sa surprise d'abord, et puis ensuite sa déception. Et puis on se retrouve, il n'y a personne qui vient vous dire, oh, mais écoutez, je vois, vous êtes triste, tout ça, venez, on va vous faire rentrer quand même. Non, tu te débrouilles tout seul, tu t'en vas avec tes sentiments. Et vous savez, ce serait dommage que ça arrive à la fin. Hein, on se dit, oui, mais moi, j'espérais avoir une place hein, dans le ciel avec Dieu. Et ça serait déçu. Et puis là, il n'y a pas moyen de rattraper, il n'y a rien du tout. Hein, c'est trop tard. Et J'aurais préféré, hein, en parlant de mon expérience tout à l'heure, j'aurais préféré qu'on m'explique ça avant, pour que je prenne des mesures, que je chasse partir tout seul, au bon moment, quand les autres sont partis. Et comme ça, il n'y a pas de gêne. On préfère savoir. Eh bien, Dieu aussi nous fait savoir. Et c'est sûr qu'il y a une invitation, et il nous invite, mais après, il y a des conditions à remplir, et il voudrait qu'on vienne. Quand tout est en place, on sait qu'on a notre place réservée, vous savez, ça rassure. Hein, quand je sais que j'ai une place, je sais que ma place elle est réservée, peu importe, j'arrive à la dernière minute, ma place est réservée. Et pour ceux qui sont prêts, c'est le savoir qu'on a une place, ça rassure. Et pour celui qui ne sait pas encore, ben, ça lui donne le temps de faire le nécessaire pour avoir une place réservée. Et c'est important. Et la Bible nous dit, écoute, Dieu t'aime énormément, Dieu veut ton bien et il veut des bonnes choses pour toi. Mais il y a quelque chose à régler. Et si vous regardez avec moi dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, et verset 9, hein, je vais lire verset 9 à 18, c'est une liste de citations tirées des psaumes de David, et qu'il a rassemblé ici, l'apôtre Paul a rassemblé, poussé par l'Esprit de Dieu. Et au verset 9, il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents, c'est-à-dire que les Juifs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Tous, Juifs et Grecs, c'est une expression qui englobe tout le monde. Nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspis. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et c'est la description générale. C'était vrai à l'époque. Ça reste vrai encore aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, si l'homme, naturellement, s'il fait ce qu'il a envie de faire et s'il fait ce qu'il... Souvent, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, mais c'est parce qu'on avait peur de le faire ou on n'a pas osé le faire ou on n'avait pas les moyens de le faire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais certainement, plus d'une fois, vous avez pensé à quelqu'un, vous avez dit, celui-là, je vais l'éliminer. La première réaction, bon, après, on ne le fait pas, mais heureusement. Hein, parfois, il y a quelque chose qui arrive, celui-là... Heureusement qu'on n'avait pas les moyens, heureusement qu'on ne l'a pas fait. Bon, c'est sûr que ça aurait été injuste vu la faute, certainement. Hein. Il m'a fait une queue de poisson et puis on a pensé des choses terribles. Hein. On l'aurait mis en prison pour la vie. Première réaction. Mais après, on... Vous savez, le cœur, hein, s'il n'y a pas le cerveau, s'il n'y a pas la conscience, il n'y a pas quelque chose ou la pression ou quelque chose pour nous retenir, c'est fou ce qui nous passe par la tête pendant quelques instants. Mais c'est ça le vrai, ce qu'il y a vraiment au fond du cœur. Hein? Et il dit, ça c'est un gros problème pour Dieu. Parce que c'est là, c'est au fond. Il suffit que quelqu'un vienne et puis qui t'agite hein, tes sentiments dans ton cœur et qui te remue et que tout d'un coup il y a des paroles extraordinaires qui sortent. Hein? Et on se dit, mais ces noms d'oiseaux, ils sont venus d'où? Mais oui, mais ils étaient là, hein, sinon hein, une poubelle ne peut pas avoir des odeurs qui ne correspondent pas à ce qui est dedans. Hein. Et alors, l'état naturel de l'homme, eh bien, il est pécheur. Il est pécheur, Dieu le pense, même si je ne le pense pas, hein, ce n'est pas parce que je ne le pense pas que ce n'est pas vrai, lui le pense, donc c'est vrai. Hein. Et donc, Éphésiens chapitre 2, il parle aux chrétiens et il nous rappelle, et c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous souvenir, hein, si, même si nous avons été sauvés et si notre vie a changé, mais de souvenir ce qu'on était et ce qu'on aurait pu devenir. Et moi, je loue le Seigneur de ce que j'ai été exposé à l'Évangile très jeune et ça m'a évité beaucoup de choses que je n'aurais pas à avoir dans ma mémoire. Ici, Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous qui étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, premièrement, accomplissant la volonté de la chair, deuxièmement, et de nos pensées, troisièmement. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Verset 4 dit « Mais Dieu ». Et c'est là où il y a eu, ça s'interrompt. « Mais sinon, avant que Dieu intervienne, avant que Dieu, eh bien, vous aviez le potentiel, chacun d'entre nous, même si on ne l'a pas fait, on avait le potentiel de le faire. Et beaucoup de ceux qui ont commis des choses et sont eux-mêmes étonnés qu'ils étaient arrivés à ce point-là. Hein, c'est, Et Dieu dit, mais dans cet état-là, c'est pas possible. Hein, la place, je ne peux pas te la réserver. Il y a des problèmes à régler. Il y a une situation à régler. Hein, donc, Romains, je reviens sur Romains chapitre 5 et versets 12 à 14. Il nous dit pourquoi nous sommes là. C'est peut-être pas notre faute, mais c'est la réalité. Hein. Romains chapitre 5 et versets 12 à 14 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. Rapidement, ce qu'il est en train de dire, c'est que les 10 commandements, par exemple, ils étaient donnés à Moïse, mais il y a beaucoup de monde avant. Ceux avant, ils n'avaient pas une liste de choses qui dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu ne voleras point, tu commettras point de dire. Ils n'avaient pas cette liste-là. Et il dit c'est sûr que quand je désobéis à la loi, eh bien, je suis pécheur. Mais en fait, je ne sais pas que je deviens pécheur, je prends conscience que je suis pécheur. Mais ceux qui n'avaient pas la loi et qui ne la connaissaient pas étaient quand même pécheurs. Il dit la preuve, c'est qu'ils mouraient. Parce que la mort est la conséquence du péché. Alors le fait, hein, si je suis un mortel, je suis un pécheur. Parce que si je n'étais pas pécheur, je ne serais pas mortel. Je serais immortel. Hein, Dieu a créé l'être humain pour vivre toujours. Mais c'est à cause du péché que nous mourons. Donc le simple fait que je sois mortel et que toute ma vie, toute mon existence, ma vie est menacée par la mort, eh bien, c'est que je suis pécheur. Hein, c'est pas besoin d'aller chercher est-ce que j'ai un casier judiciaire, est-ce qu'il est... Ça n'a rien à faire. Si tu es une personne capable de mourir, si la mort t'attend, tu es pécheur. Voilà. Et donc, même le nouveau-né, hein, qu'on dit, mais il est innocent, il n'a rien fait encore. Oui, mais il est mortel. La conséquence, le péché, la force du péché est là. Et Dieu est conscient de cela. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. Hein. C'est pour cela. Alors, la première chose, c'est que pour chacun de nous, de reconnaître cet état-là et dire, heureusement que Dieu est là pour me faire remarquer cela, pour m'informer de cela, pour que je puisse prendre les mesures nécessaires pour pouvoir réserver une place. Vous savez, peut-être que vous avez été invité à une fête, vous avez reçu l'invitation, on dit vous venez, on vous a même dit que c'est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a rien du tout, vous venez, c'est gratuit, vous êtes bienvenu. Mais ils vous ont quand même dit, veuillez nous informer que vous venez. Parce que si vous ne dites pas que vous venez, nous on ne réserve pas de place. C'est-à-dire, ils vous disent c'est gratuit, tout, mais il faut quand même leur dire, oui, on va arriver, on sera deux ou on sera cinq. Sinon, il n'y a pas de place. C'est-à-dire, l'invitation est générale, venez à la réception, vous êtes bienvenus, on sera content de vous avoir, tout ça. Mais si je ne réponds pas à l'invitation, je ne fais pas ce geste, eh ben, c'est comme si je n'étais pas bienvenu ou je n'étais pas invité. Hein, ce n'est pas pour moi. Mais pareil, Dieu... Hein? Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il dit, l'invitation est générale pour vous tous. Bon, mais, quand même, je vous demande de prendre le temps, de vous arrêter et de me dire que vous voulez, hein, que vous voulez bénéficier de cette invitation. Vous voulez bénéficier du fait que Jésus-Christ a tout payé et que vous voulez... que vous êtes pécheur et que vous avez envie de venir, vous voulez qu'il vous réserve une place. Il a dit, dites-le-moi en tous les cas. Après, comme ça, je vous réserve une place. Parce que sinon, vous aurez, peut-être vous avez eu des bonnes intentions, peut-être, dès que j'ai reçu l'invitation, j'avais envie de venir. Et oui, mais tu n'as jamais répondu. Donc, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de table pour toi. En général, ils se débrouillent, vous savez comment c'est. Hein, il y a toujours des gens qui oublient. Ici, sur Terre, ils prévoient deux, trois, quelques couverts supplémentaires. Puis il y a des annulations en dernière minute. Ils disent, bon, ben, il y a eu une annulation, tu veux rester quand même. Oui, mais bon, pour Dieu, c'est pas pareil. Hein. Et donc, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais dites-moi que vous en voulez une, hein. Dites-le-moi, dites Jésus-Christ, hein, c'est ça qui est important, Jésus-Christ, j'aimerais venir, je sais que dans l'état où je suis, en tant que pécheur, je ne peux pas venir, mais je voudrais que par le sang de Christ qui a coulé sur la croix, le sang de ton Fils, je voudrais que tu me purifies du péché et je veux une place. C'est tout ce qu'il demande. Il a dit, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à préparer, je ne demande pas que tu fasses 500 prières, ni des génuflexions, ni jeunes, ni rien du tout. Tout ce que je demande, c'est que tu me parles et tu me dis que tu veux venir et que tu voudrais bénéficier de cela. Et donc, hors Christ, il n'y a pas de place, mais en Christ, j'ai une place. Jésus, en fait, il y a des places, c'est parce que lui les a achetées. Il a payé le prix. Il a dit, moi, j'ai billé pour toi. Hein, c'est comme celui qui m'invite et qui dit, écoute, j'ai des places pour le match, ça t'intéresse? Je dis, oui, ça m'intéresse. Et ben, tu passes à la maison, tu les prends et je te les donne. Mais si je ne passe jamais à la maison les prendre, le match, je ne le verrai pas. Et Dieu, c'est pareil. Ça, oui, ça m'intéresse, je passerai, je suis occupé là maintenant, mais je passerai. Et puis après, le temps est passé. Ah, et les billets, tu les as toujours? Oui, mais le match, c'était la semaine dernière. Ah bon? Ah! Et oui, mais tu n'as pas pris... vous savez, avec le Seigneur, il y aura des pleurs. Il y aura des regrets. Il y en aura qui vont dire, ah, pourtant, je savais que c'était vrai, tout ça, j'ai pas... Ah, je voulais m'amuser, je voulais faire ceci. C'était pas prévu que je meure à 40 ans, moi je croyais que j'allais vivre jusqu'à 60 ans. Aïe! Oui, mais c'est trop tard. Il vaut mieux le faire tout de suite. Vous savez, moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai entendu l'évangile très jeune, je savais que c'était vrai, je croyais que c'était vrai, tout ça. Mais quelque part dans mon cœur, j'avais dit, ah, je veux d'abord un peu voir, m'amuser comme les autres, et puis ensuite, je demanderai. Eh bien, Dieu s'est servi d'un événement dans notre famille, c'est que mon frère, il s'est amusé avec les allumettes qu'il a trouvées, et il a mis le feu à la chambre de mes parents, hein, sur leur lit. Bon, il n'y a pas plus de dégâts que ça, hein, c'est, bon, la chambre noire, le lit brûlé, tout ça, et puis toutes les couches de ma petite sœur, parce qu'à l'époque, c'était des couches comme ça. Hein. Mais bon, Dieu s'est servi de ça pour me parler, parce qu'il m'a dit, parce que là, tout d'un coup, j'ai eu la pensée, j'ai dit, et si mon lit prend feu pendant la nuit, dans mon sommeil, et je n'ai pas le temps de demander au Seigneur de me pardonner. Et ça m'a travaillé plusieurs nuits. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, je ne prends pas de risque. J'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, je veux être sauvé. Et tout d'un coup, j'avais la joie. Et puis, bon, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Maintenant, c'est peut-être plus de 50 ans plus tard, mais je n'ai pas de regret. Je suis content de l'avoir fait à ce moment-là. Bon, Dieu a su se servir des événements pour un peu me motiver dans le bon sens. Mais c'est ça. Hein, on se dit, on va faire des calculs, on veut calculer nos risques même. Je vais... Oui, mais... Mais vous savez, tout à l'heure, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, et je me suis arrêté à la fin du verset 3. Mais je vous invite à aller un petit peu plus loin, hein, maintenant, parce que le verset 4 commence « Mais Dieu ». Dieu, et finalement, c'est ça que je viens de vous dire par rapport à moi, « Mais Dieu s'est servi d'un événement pour me secouer, et dans le bon sens ». Ici, Éphésiens 2, verset 4 dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. « Il nous a ressuscités ensemble. » Regardez bien ce que je vais lire. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il nous fait asseoir. Si on s'assied, c'est qu'il y a un siège. Hein. C'est que les jeunes qui se font des tours comme ça, ils retirent le siège quand quelqu'un veut s'asseoir. Mais Dieu ne fait pas ça. Hein, c'est... Paul dit, la place, c'est tellement sûr que tu as une place que tu peux te considérer comme étant déjà assis dedans. Il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est tellement sûr, c'est comme si vous y étiez déjà. Vous pouvez vous voir là, et ce n'est pas du rêve, c'est du vrai. Nous sommes assis. Et vous savez, les chaises, surtout ici, on a laissé presque tout ce qu'on a comme meuble. Mais la chaise, c'est très important. Parce que la chaise, ça représente, on se repose du travail quand on s'assoit. Benoît, là, je pense que le patron, il ne fournit pas trop de chaises. Ils sont là pour travailler, pour fournir des outils, mais pas des chaises, surtout pas des fauteuils ou surtout pas un lit. Hein. Et là, le Seigneur... Mais vous savez, dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, il y avait le bâtiment, il y avait de l'or, et les meubles en or, et tout. Mais il n'y avait pas de chaises. Nulle part, il y avait une chaise. Vous lisez... Tout, Lévitique, Exode, il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle. Pourquoi ? Parce que le travail des prêtres n'était jamais terminé. Il y avait constamment des péchés, il y avait constamment des sacrifices à offrir, tout ça. Mais est venu Jésus-Christ qui a offert le sacrifice pour le péché, et quand il avait fini, il est monté et il s'est assis. Parce que tout est accompli, c'est terminé. C'est tout fait. Tout ce qui est nécessaire pour que moi j'ai une place là-haut, tout a été fait déjà. C'est question de se faire réserver cette place. Jésus a parlé à ses disciples, il a dit « Je vais vous préparer une place ». Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit la même chose, mais autrement. 2 Corinthiens, chapitre 5, et je commence par lire le verset 1. Verset 1 nous dit, « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, » il parle du corps humain, hein, « et d'ici cette tente, » imaginez quand il parle tente, il emploie le même mot qu'il emploie pour une tente de nomade, de bédouin, hein. Donc, une tente, c'est quelque chose de très temporaire qui se... Il dit, nous savons en effet que si cette tente que où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Regardez le contraste entre tente et édifice. En français, on dit, ça c'est du dur. C'est-à-dire, ça, c'est du permanent. Hein. On dit investir dans du dur. Parce que c'est permanent. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'apôtre Paul parle, hein, parce que normalement, le chapitre 5, il aurait dû commencer un peu plus haut dans le chapitre 4. Et donc, je vous lis le verset. Bon, je vais commencer au verset 17 du chapitre 4, hein, de Corinthiens 4, 17. Dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. En fait, dans notre langage terrestre, on parle du dur, ça c'est quelque chose de permanent, ça reste. Et puis, bon, les Romains, ils ont fait du dur. Hein. C'est l'apôtre Paul était à l'époque des Romains. Hein, quand donc, il savait, le travail de Romains, il en voyait partout. Et nous, on le voit encore aujourd'hui. Hein, ça, c'est du dur. Il dit, non, mais ça ne tient pas. Il dit, c'est ce qui est invisible, ce que Dieu a fait, ce qui n'a pas été fait de main d'homme, parce que les hommes peuvent faire que ce qui est visible, donc temporaire. Mais il a dit, Dieu a préparé pour vous un édifice invisible, mais éternel. Je reviens au chapitre 5, hein, de Corinthiens chapitre 5, verset 2. Il dit, « Et aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est-à-dire, en plus, il a dit, au cas où vous auriez du doute, je vous donne une garantie. Les arts, c'est ce qu'on avance sur un achat. Hein, vous donnez des arts, eh bien Jésus dit, le Saint-Esprit qui est en vous, c'est les arts, c'est la garantie. C'est le Saint-Esprit qui est en vous, c'est l'avance, comme ça vous savez que votre place est réservée. Vous savez que vous avez une place dans les lieux célestes, vous avez un édifice. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, une demeure. Eh bien, il a dit, votre corps, c'est une merveille, c'est sûr. Ça fascine les chercheurs encore aujourd'hui. Mais il dit, mais c'est en fait par rapport à ce qui vous prépare, c'est une tente de nomade. Et c'est une tente dans laquelle vous gémissez pour toutes sortes de raisons. Chacun gémit à sa manière et pour ses raisons. Mais il a dit, je vous prépare une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc elle est parfaite. Il dit, j'ai une place pour vous. Et elle est garantie. Oui, hors Christ, pas de place. En Christ, j'ai une place. Donc la question, c'est pour Christ, est-ce que j'ai une place, hein? Et nous nous réjouissons de ce que Jésus nous réserve une place dans le ciel. Mais n'oublions pas que... le corps de Christ, il existe déjà. Et il dit que l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ forment le corps de Christ. Et nous composons ce corps. Et il dit, vous êtes, Romains chapitre 12, voyez avec moi, hein, Romains chapitre 12, rapidement. Romains chapitre 12, il dit, vous êtes les membres de ce corps. Romains chapitre 1 jusqu'à 11, c'est de la doctrine. Hein, c'est doctrinal, et c'est peut-être pour ça que vous le trouvez parfois, certains passages un peu difficiles à comprendre. Mais à partir du chapitre 12, c'est de l'exhortation pour la vie chrétienne. La première exhortation qu'il donne, c'est au verset 1, il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Déjà, vous donnez à Dieu, dit Dieu, toi tu as donné ton fils pour moi, moi tout ce que j'ai, comme on a chanté tout à l'heure, un corps fatigué de souffrir, mais je te donne ce que j'ai. La deuxième exhortation, verset 2, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés. Ça, c'est la deuxième exhortation. Il dit d'abord, tu donnes ton corps à Dieu, et après, tu te laisses transformer par lui. Et puis, au verset 3, il nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop opinion, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, hein, dans notre corps physique, on a plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, hein, vous ne faites pas avec les mains ce que vous faites avec les pieds, à moins que, à cause d'un handicap, alors vous, les membres commencent à avoir une autre fonction, mais normalement, chaque membre a sa fonction. Et il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Donc, Dieu ne prend pas les chrétiens, puis il les mélange comme ça, puis il en fait une pâte, et puis voilà, bon, on retrouve plus personne. Hein, c'est une pâte, et on fait quelque chose avec. Non, non. Nous sommes des pièces qui se joignent ensemble, hein, comme les pièces d'un puzzle, et puis, ça, quand tout est rassemblé, ça fait quelque chose de joli. Chaque morceau, il ne représente pas grand-chose, mais ensemble, il représente quelque chose. Et le corps de Christ, c'est comme ça. Donc, j'ai ma place. Et chaque morceau du puzzle, il peut dire, moi, j'ai ma place. Parce qu'on ne peut pas l'intervertir avec un autre. Il a sa place. Et chacun de nous avons notre place dans le corps de Christ. Et il dit, tu es membre. Et parce que tu es membre, tu as une fonction. Tu as une utilité, tu as un service à apporter. Et je n'ai pas à chercher, moi je veux faire comme lui. Non, non. Toi, tu es toi, lui c'est lui, et ensemble, eh bien, on a une relation de famille. Et donc, à chacun de nous de remplir notre fonction. Donc, j'étais hors Christ, par la foi, je suis en Christ. En Christ, j'ai une place. Il me dit, bon, j'ai une place réservée pour toi, mais je t'ai mis dans un corps. Et parce que tu es dans un corps, tu as une fonction. Et cette fonction, ben, tu dois l'exercer. Regardez comment il le dit, verset 6. Donc, Romains 12, verset 6, dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il dit, ce que tu as à faire, quel est le rôle que Dieu t'a donné, la place que Dieu t'a donnée, eh bien fais-le avec générosité, avec zèle, avec amour. Il t'a donné cette place, tu as une place. Hein? Donc, peu importe si le monde a prévu une place pour moi, hein, et tous ces gens qui débarquent en Europe, et puis il n'y a aucune garantie d'avoir une place pour eux. Hein, ils arrivent un peu, pas avec trop de... Hein, on fait pas, y a pas la fanfare là pour les recevoir. Ils espèrent pouvoir trouver une place, se faire une place. Mais ce n'est pas comme ça qu'on ne débarque pas sur les berges du ciel et puis on essaie de se faufiler là-dedans. Non, Dieu dit non, non, je vous ai prévu, j'ai une place pour vous et vous pouvez vous détendre en Jésus-Christ, peu importe les événements et ce qui se passe dans le monde et tout cela. Vous avez une place. Vous avez une place que je vous ai réservée, une bonne place. Et vous avez un rôle, une fonction sur la terre. Remplissez-la. J'ai une place. Pour revenir sur l'illustration du début, le Seigneur nous a préparé une meilleure place que ce que Francisca prépare pour sa cousine. Il lui donne qu'une chaise, c'est tout. Mais le Seigneur, il a prévu beaucoup de plus belles choses pour nous. Gloire à son nom. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ton grand amour. Te remercions parce que, vraiment, quand on parle d'amour, ça c'est de l'amour. On a déjà entendu de gens qui nous parlent, mais même qui nous promettent des choses, et puis il n'y a rien qui arrive. Mais toi, tu as préparé quelque chose de bien. Toi, pour toi, nous sommes importants. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, a dit, mais elle nous a rappelé ces paroles de David qui dit, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Nous pouvons répondre, parce que tu t'intéresses à nous, nous sommes des quelqu'un. Et tu nous as donné une nouvelle importance. Et tu nous as préparé une place. Tu nous désires. Et Père, nous que cela non seulement nous réjouisse dans notre esprit, mais rassure notre âme et nous permette de vivre dans notre corps autrement. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous propose un cantique, le 413. On vient de le chanter, n'est-ce pas? Alors, on va prendre le 300. Nous sommes au Seigneur. Le cantique 300.